toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'est pire que ce que craignait la famille royale. Pendant 2 heures, Meghan et Harry ont étrillé la couronne dans une interview qui a rassemblé hier 96 millions de téléspectateurs aux États-Unis. À Londres, toujours pas de réaction officielle de la part de Buckingham. Pourtant, les accusations sont sévères. La famille royale est accusée d'hypocrisie, d'avoir refusé une assistance psychologique à la jeune femme lorsqu'elle était enceinte et qu'elle avait, c'est ce qu'elle raconte, des pensées suicidaires. L'institution est décrite comme froide, toxique, étouffante. L'actrice américaine l'appelle même la firme. Plus grave encore, ces accusations de racisme. La couleur de peau du bébé aurait été un sujet d'inquiétude, selon les mots mêmes de la duchesse de Sussex. Alors, que faut-il retenir de cette interview? Quelles peuvent être les conséquences de ces déclarations sur la monarchie? Est-elle ébranlée? Comment peuvent et vont peut-être réagir les Windsor? Harry et Meghan, shocking, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Elisabeth Moutet, vous êtes éditorialiste au Daily Telegraph. Citons votre livre sur William et Harry, Dernière chance pour la couronne, publié chez Télémaque Éditions. Jean Descartes est avec nous ce soir. Vous êtes historien, spécialiste des dynasties européennes. Je rappelle ces deux ouvrages, La saga des Windsor et Elisabeth II, La reine, publié aux éditions Perrin. Avec nous ce soir, Isabelle Rivière. Vous êtes chef du service royauté de l'hebdomadaire Point de vue, spécialiste de la couronne britannique. Votre ouvrage Elisabeth II dans l'intimité du règne est publié aux éditions Fayard. Enfin, avec nous ce soir, Sonia Delsal-Stolpler. Vous êtes rédactrice en chef du service étranger pour le journal Libération et vous êtes également correspondante à Londres où vous trouvez en ce moment même. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je commence avec vous, Elisabeth Moutet. Je commençais cette émission en disant c'est pire que ce que craignait la couronne.
Oui. C'est nettement pire, parce que la chose la plus grave étant les accusations de racisme. Parce que, d'une part, la Grande-Bretagne, qui est un pays très divers, qui a un maire de Londres pakistanais, un ministre des Finances d'origine indienne, une ministre de l'Intérieur d'origine sikh, est un pays qui est content, qui est fier de sa diversité. Et donc, évidemment, c'est très embêtant. Et puis, ça réveille les nombreux partisans de Black Lives Matter qui avaient fait des manifestations en Grande-Bretagne tout l'été dernier. Mais aussi parce que, en ce qui concerne les relations entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, la fameuse relation spéciale, c'est une catastrophe. Les accusations de racisme, la moindre accusation de racisme aux États-Unis vous fait perdre votre emploi, vous rend inemployable. C'est pas du tout. Et donc,
Ça se passe le jour de l'ouverture du procès du meurtrier de George Floyd.
En plus, et ça se passe aussi le jour de la journée de la femme, donc pour lesquelles les accusations de ne pas s'occuper d'elle, de ne pas l'avoir, comme elle dit, protégée, de ne pas avoir assuré, l'aider à surmonter sa dépression prénatale, si on peut dire. Ouais. Tout ça, c'est une espèce de mélange qui, essentiellement, c'est l'option nucléaire. Ça va être extrêmement difficile. Alors, il y a des réactions en Grande-Bretagne en ce moment parce que Meghan avait totalement et très bien qualifié calibrer son interview, puisque toute la première partie, c'est elle seule. Harry vient en personnage
d'un... C'est curieux, d'ailleurs, non?
Parce que c'est elle.
Qu'est-ce
la star.
Qu'est-ce que ça raconte?
C'est elle la star. D'accord. C'est elle la star, c'est pas lui. Lui, il est la personne qui l'a assisté dans sa montée, mais c'est elle qui triomphe. Toute la première partie, c'est elle qui parlait de son expérience dans la famille royale. Ensuite, son mari est venu et il a conforté absolument tout ce qu'elle disait. Tout son vocabulaire était absolument basé sur le système américain de faire beaucoup de psychologisme. Donc, bon, la question de racisme, c'est absolument évident.
Elle est face à Oprah Winfrey, qui porte aussi ces sujets-là.
Qui est absolument la reine de la psychanalyse médiatique, si je puis dire, et qui est une très bonne intervieweuse. Enfin, je veux dire que vraiment, c'était admirablement fait. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette interview, elle est largement calquée sur celle de la princesse Diana en 1995 avec Martin Bachir. C'est-à-dire qu'elle aussi, elle dit « La famille royale ne m'a pas bien accueillie, elle ne s'est pas occupée de moi, j'ai eu des envies de suicide, j'ai été en pleine dépression, ça n'a pas intéressé les gens. » Et on se rend bien compte que, quelque part, à la fois, toute la vision de Harry a été formé et formaté par ça. Sure. Et puis on peut tout de même se dire aussi que Harry et Meghan se sont retrouvés là-dessus et il y a une espèce de fusion où les angoisses de l'un et le vocabulaire de l'autre sont allés faire cette espèce de
personnage. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai, ce qu'elle a vécu, mais en tout cas, le contexte familial dans lequel tout cela se produit est important à rappeler.
Je dis qu'elle l'a vécu comme ça. Je ne suis pas sûre que ça soit passé comme ça, mais elle l'a vécu, elle l'a ressenti comme ça.
Et on va revenir parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce que vous expliquez à l'instant, Anne-Elisabeth Moutet. Je voudrais revenir avec vous, peut-être qu'on va commencer par ça, Isabelle Rivière, sur, vous disiez, c'est le feu nucléaire, c'est l'option nucléaire. L'option nucléaire, c'est les accusations de racisme.
Oui, et c'est, en fait, c'est ce qu'on redoutait. C'est ce que redoutait le plus le palais, qui n'a pas été mis au courant à l'avance du contenu de cet entretien avec Oprah Winfrey. Il y avait beaucoup, beaucoup d'inquiétudes à Londres. On s'attendait à des choses difficiles, mais peut-être pas aussi difficiles que celles-là. Là où il y a peut-être une forme de malhonnêteté intellectuelle de la part de Meghan, c'est de mélanger la couleur de peau d'Archie, c'est-à-dire effectivement des insinuations racistes qu'aurait fait un membre de la famille royale qui
n'est
pas
la reine, qui n'est pas la reine et qui n'est pas le prince Philippe, ça a été dit par Oprah Winfrey.
On l'a appris cet après-midi. Enfin, il a quand même fallu que ce soit Oprah Winfrey qui le précise, qui est un petit peu curieux quand même comme démarche. En tout cas, oui, la malhonnêteté intellectuelle, en tout cas le début de malhonnêteté intellectuelle, c'est de mélanger la couleur de peau de Harry, donc les craintes qu'aurait eu un membre de la famille royale à ce sujet, et le titre qu'on n'aurait pas voulu lui donner. En réalité, Archie étant le fils du second fils de l'héritier du trône, il n'y a rien d'automatique là-dedans. Il faudrait... pour qu'Archie ait un titre, que la reine Elisabeth émette ce qu'on appelle des lettres patentes qui lui confèrent à la fois un prédicat d'altesse royale, un titre de prince. Cela n'a pas été fait, mais c'est tout à fait indépendant, bien évidemment, de la couleur de peau du petit garçon.
Il y avait déjà eu des accusations avec l'arrivée de Meghan dans la famille royale, de racisme de la famille royale, Isabelle Rivière.
Enfin, pour moi, la famille royale de Grande-Bretagne est probablement la famille que l'on ne peut vraiment pas accuser de racisme, notamment en raison de ses liens avec les pays africains, les pays du Commonwealth. La reine Elisabeth II est la chef de l'organisation internationale du Commonwealth. On sait à quel point elle a été décisive dans le maintien de la cohésion, de l'unité de cette organisation internationale, notamment en raison de ses liens avec les chefs d'État africains, qu'elle a connue sur plusieurs générations. Il n'y a absolument aucun doute à avoir là-dessus. Je crois que les hésitations, les problèmes du couple au début sont venus du fait que sur les réseaux sociaux, Meghan, lors de son entrée dans la famille régnante, a été beaucoup, c'est vrai, beaucoup, beaucoup malmenée sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook.
Pour ces raisons-là, avec des accusations racistes.
Pour des raisons, absolument, pour des raisons D'accord. racistes. Et ça aussi, il faut le dire. Et ouais. De ce côté-là, le couple est absolument légitime, en fait, dans cette plainte qu'il a sur ce domaine. Mais il ne faut pas non plus tout mélanger.
D'accord. Jean Descartes, si on boucle la boucle sur ces accusations de racisme qui sont effectivement, sans doute, je reprends encore l'expression d'Anne-Elisabeth Moutet, le feu nucléaire dans un contexte très particulier. Quand on se souvient du mariage de Harry et de Meghan, il y avait des signaux qui étaient envoyés par les Windsor, je pense à ce pasteur afro-américain, il y avait des signaux qui étaient envoyés pour montrer que, évidemment, c'était toute la culture de Meghan qui était embrassée dans cette cérémonie.
Qui était mise en valeur par un prédicateur qui ressemblait à un télé-évangéliste américain. La chapelle Saint-Georges à Windsor n'avait jamais entendu des choses pareilles. Non, la largesse d'esprit de la famille est très connue et ne peut pas être contestée. Il y a une chose importante que Anne-Elisabeth évoquait, les liens avec le Commonwealth. Le 21 avril 1947, le jour de ses 21 ans, la jeune princesse héritière qui se trouve au Cap, en Afrique du Sud, prononce un discours fondateur à la BBC pour dire que ma vie soit longue ou courte, je resterai au service du Commonwealth et des populations qui le composent. C'est donc un grand geste d'amour qu'elle a fait, qu'elle continue. Il faut rappeler, par exemple, qu'au moment de la décolonisation, elle est allée contre l'avis du gouvernement en Ghana, l'ancienne Gold Coast, danser avec le président de cette nouvelle république qui était inféodé à Moscou. Alors, on ne peut pas dire...
Elle n'est pas en cause, la reine Elisabeth. Encore une fois, Oprah Winfrey, cet après-midi, a pris la peine de dire que ça n'était ni elle, ni le prince Philippe.
Meghan est une comédienne, elle ne donne pas de nom, pas de précision, c'est une accusation vague que n'importe qui peut faire.
Grave, une accusation grave.
Ben oui, je trouve grave de donner des... Il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de traces, etc. Jusqu'à présent, c'est de la délation. Bon, Alors, c'est une comédienne, elle est très habile, il ne faut pas l'oublier. Je ne l'accuse pas, mais je constate s'il y a des accusations, où sont les preuves, où sont les témoignages. Et la famille a prouvé, comme l'a dit Elisabeth, vraiment une largesse d'esprit fantastique. Il faut se souvenir du mariage. Et, dernier point, la reine a été très choquée, puisque lorsqu'elle a envoyé Harry et Meghan en Afrique, dans les pays du Commonwealth, Meghan a fait savoir que ce n'était que des hochets et que ça n'avait pas d'importance, alors que c'est la base de la vision universelle de la souveraine.
Pourtant, ils avaient plutôt des bonnes relations, les deux, la reine et Meghan, de ce qu'on a lu ici ou là.
Au début. Vous dirais, aujourd'hui, ce n'est pas la monarchie qui vacille. Pour moi, c'est Meghan et Harry qui vacillent.
On va y revenir dans un instant. Quelle a été la réaction de la presse londonienne? Alors, l'intégralité de l'interview n'a pas encore été diffusée. Alors, je pense qu'ils l'ont vu depuis. Mais sur les médias américains, Sonia Del Salle-Stolper, comment est-ce que ça a été reçu? Quelles sont les réactions à Londres aujourd'hui? Est-ce qu'il y a deux camps?
Ah ben oui, bien sûr, il y a team Harry Meghan et il y a team la famille royale. Mais et c'est très intéressant parce que dans la team famille royale, il y a les tabloïds britanniques qui se font, qui vivent en fait et qui se nourrissent de la famille royale, des scandales au fil des années, etc. Et je pense que là où il faut peut-être un petit peu préciser, c'est que ces accusations de racisme, alors certes, l'un comme l'autre cite un membre de la famille royale et effectivement, on a précisé que c'est que ce n'est ni la reine ni le prince Philippe, mais ça va bien au-delà de ça, et ça c'est un fait qui est prouvé et qui n'est absolument pas démenti, qui ne peut pas être démenti, c'est que les tabloïds, au fil des années, et à peine un an après leur mariage, se répandaient en allusions extrêmement malaisantes et très proches et racistes absolument à plusieurs reprises, et c'est quelque chose, et ce que Meghan et Harry, d'ailleurs, disent très clairement, c'est ce qu'ils reprochent, et pas tellement à la reine ou qui que ce soit, au contraire, la reine, effectivement, s'en sort très bien, mais c'est plutôt à l'appareil, à ce qu'elle appelle, elle, finalement, elle ne parle pas de la firme, elle parle de l'institution. C'est cet appareil qui est constitué de fonctionnaires, qui sont en fait des fonctionnaires payés par le contribuable britannique, et qui explique qu'en fait, cette institution n'a rien fait pour contredire ces accusations, pour contrer cette campagne de dénigrement qui s'est faite de plus en plus importante au fil des mois.
Vous laissez entendre qu'elle s'attendait sans doute à être protégée par l'institution face à ces attaques, et qu'elle n'a pas été. Elle n'a pas été protégée par la couronne.
Mais vous savez, c'est curieux, vous regardez, c'est quand même l'histoire qui se répète. C'est pas la première fois qu'un membre de la famille royale se retrouve enfermé. En fait, elle évoque quelque chose qui était intéressant. Elle disait, vous savez, on vit tous depuis un an dans une forme de confinement, d'une manière ou d'une autre, et c'est très compliqué et c'est très difficile à vivre. Vivre dans la famille royale, c'est être en confinement permanent, c'est-à-dire on est toujours derrière les murs de Buckingham Palace ou d'un autre palais, c'est très bien, mais on ne peut pas dire je vais déjeuner avec mes copines aujourd'hui parce que c'est pas possible, parce que au Royaume-Uni en tout cas c'est pas possible parce qu'il y aura les paparazzis partout, et c'est quand même une vie qui est compliquée en dépit des privilèges, en dépit de tout ce qu'on peut de tout ce qu'on peut avancer. Donc je veux bien, peut-être que Meghan est calculatrice et comédienne, etc., mais c'est une femme mûre qui tombe amoureuse d'un prince. Voilà, et parce qu'elle est tombée amoureuse d'un prince, elle doit s'enfermer et arrêter de parler. Je ne suis pas totalement sûre que ce soit forcément absolu, surtout l'épouse d'un homme qui est sixième dans l'ordre d'accession au trône, qui ne sera jamais roi finalement.
Et elle raconte effectivement qu'elle était sous surveillance. Elle dit « Quand j'ai rejoint cette famille, c'est la dernière fois jusqu'à aujourd'hui que j'ai revu mon passeport, mon permis de conduire, mes clés. L'institution lui demandait de ne pas déjeuner avec ses amis, de peur que cela se retrouve dans la presse. » Juste un mot, Elisabeth Moutet, avant d'aller quand même au premier reportage, on va entendre vraiment dans le détail ce que disent Meghan et Harry, mais en particulier Meghan. Boris Johnson s'est exprimé aujourd'hui sur le sujet. Alors, c'était très court, très ciblé. Il a précisé qu'il y avait un rôle d'unification de la reine dans le pays. Et il dit, je n'ai pas l'intention de commenter ce qui se passe dans la famille royale. Il a juste rappelé que l'institution était attachée au rôle de la reine, sans plus.
Oui, oui, il a bien raison, parce que il y a que des coups à prendre de se mettre sur le même, de se mettre exactement sur le même terrain et de répondre à tous les griefs, parce que ce sont des griefs qui sont infinis, puisque tous ces griefs ont été exprimés dans le langage de la perception. C'est j'étais malheureuse, j'ai ressenti ça. Et alors, on peut pas discuter les perceptions des gens. Si les gens reprennent,
on peut pas lui dire qu'elle n'a pas été malheureuse si elle
a été exactement. Il y a ça.
On va, si vous le voulez bien, Anne-Elisabeth Moutet, je vous donnerai la parole. Okay. Je voudrais qu'on voit sur les déclarations un petit peu plus dans le détail. En tout cas, c'est une interview que redoutait la couronne et elle n'avait pas tort. Pendant 2 heures, Meghan et Harry, face à la reine du talk show, sans son prix à la famille royale, l'affirme comme il l'appelle, accusation de racisme, hypocrisie, sentiment d'abandon, d'exclusion des deux jeunes mariés. L'actrice américaine confie même avoir pensé mettre fin à ses jours. Romain Besnénou et Christophe Roquet.
Des confidences exclusives et très attendues.
Êtes-vous restée silencieuse ou vous a-t-on réduite au silence ?
Qui font l'effet d'une bombe.
On risque de perdre beaucoup avec cette interview, mais nous avons déjà énormément perdu.
Dans une longue interview de 2 heures diffusée hier aux États-Unis, le prince Harry et sa femme Meghan sont revenus sur leur relation tendue avec la famille royale. La duchesse dit avoir eu des idées suicidaires lorsqu'elle était enceinte de son premier enfant et personne à Buckingham Palace ne l'aurait soutenue.
J'avais honte de le dire à l'époque, surtout à Harry, parce que je savais combien il avait déjà souffert par le passé. Mais je savais que si je ne disais rien, je le ferais. Je ne voulais tout simplement plus être en vie.
Le Palais Royal, une prison dorée où règne hypocrisie et pression familiale, selon le couple, qui va même jusqu'à porter des accusations de racisme contre certains membres de la famille.
Lorsque j'étais enceinte d'Archie, il y avait des discussions dans la famille sur le fait qu'il ne protégerait pas mon bébé et qu'il n'aurait pas de titre. Il y avait aussi des discussions et des inquiétudes quant à savoir à quel point sa peau serait foncée quand il naîtrait.
Quoi ?
Même stupéfaction à Londres, où forcément la presse fait ses gros titres sur Harry et Meghan. Des révélations explosives pour le Daily Express. Un entretien sensationnel, incroyable pour le Daily Mail. Dans les rues de la capitale britannique aussi, on ne parle que de ça.
Je pense qu'ils n'auraient pas dû faire ça, ça ne me plaît pas. Je ne crois pas que cette interview leur fasse du bien, vraiment, c'est honteux.
Moi je trouve que c'est bien. Les gens découvrent une histoire différente sur ce qu'il se passe à l'intérieur de la famille royale. Les murs tombent, c'est une bonne chose.
Cela fait longtemps en fait que le couple et la famille royale sont en guerre. La semaine dernière, Buckingham Palace ouvrait une enquête interne après des accusations portées contre Meghan Markle.
Tôt ce matin, le palais s'est dit très préoccupé par des accusations qui visent la duchesse pour des faits de harcèlement. D'anciens membres de son équipe en sont à l'origine.
3 employés du palais disent avoir été harcelés par la duchesse lorsqu'elle vivait à Londres. De quoi jeter le trouble sur la personnalité de Meghan.
Les accusatrices se disent effondrées. Elles prétendent que le portrait bienveillant que l'on dresse habituellement de Meghan est faux. Les défenseurs de la duchesse, eux, maintiennent que c'est elle la victime.
Quant au prince Harry, si dans l'interview il épargne sa grand-mère...
Avez-vous pris la reine par surprise ?
Non, j'ai jamais pris ma grand-mère de court, j'ai trop de respect pour elle.
Il explique avoir été lâché par son père, le prince Charles, qu'il dit prisonnier de la monarchie. Harry, qui n'hésite pas à faire référence au destin tragique de sa mère, la princesse Diana.
Je ne peux pas imaginer combien cela a dû être difficile pour elle de vivre ce genre d'histoire toute seule pendant des années. Pour nous, c'est très dur, mais au moins on est là l'un pour l'autre.
Déchus de leurs titres royaux, exilés à l'autre bout du monde, Harry et Meghan continuent de fasciner et de faire recette. La chaîne américaine CBS a acheté les droits de l'interview du couple à l'animatrice Oprah Winfrey pour 7 à 9 millions de dollars.
Juste, ils ont été payés pour cette interview. Alors, c'est plus compliqué que ça. C'est pas eux qui vont récupérer l'argent.
Alors, CBS a gagné énormément d'argent, oui. Et Harpo Productions, qui est la société de production de Oprah Winfrey, qui vend ça à CBS, et qui vend ça, je crois, dans 50 pays dans le monde, est en train de gagner des dizaines de millions de dollars. Alors ensuite, comment est-ce que ça va se passer avec Meghan et Harry? Je ne sais pas. Il était question que ce soit donné à de l'argent qui soit donné à leur fondation pour faire des bonnes œuvres. On ne sait pas encore comment ça se passe. Mais certainement, c'est une émission qui était dans le business de la télévision. C'est un énorme truc avec un gros chiffre d'affaires.
Ça fait autant que le Super Bowl en audience, hein, 96 millions d'Américains.
C'est le problème de savoir ce qu'ils vont faire à l'avenir. Vont-ils continuer à vendre des secrets vrais ou
faux? On va en parler de leur avenir. Je voudrais qu'on revienne, si vous le voulez bien, Jean Descartes, sur l'interview. Harry fustige les journalistes responsables du décès de Diana. L'aurait-il oublié quand il accorde une interview de ce genre? C'est Sylvie en Moselle qui vous pose cette question.
Écoutez, c'est faux. Diana, paix à son âme, était une provocatrice. Même son frère, le comte Spencer, a dit qu'elle était perverse le jour de ses obsèques. Elle regardait en dessous. Je l'ai vue convoquer des journalistes pour lui proposer des photos volées. Et ensuite, quand il se présentait, elle l'envoyait loin. Donc c'était une manipulation. Et je trouve, paix à son âme, elle est morte dans un accident terrible. Accident, je crois, incontestable. Mais il est grave que Meghan essaye de se glisser, c'est très malsain, dans
Pourquoi
le modèle pour passer pour une martyre poursuivie, alors que c'est elle qui fait quand même pas mal de provocations. Le départ du Royaume-Uni, il y a près de 2 ans, 1 an et demi, en plein Brexit efficace, alors que la pandémie va commencer, a été considéré comme un abandon de poste du territoire. Et sans prévenir la reine qui les attendait à Sandringham, ça a été très, très mal perçu. C'est aussi grave, toute proportion gardée, que si George VI avait quitté l'Angleterre en 1940. C'est un abandon, sans prévenir la souveraine. Et depuis, se glisser dans le moule de la princesse, si je puis dire, martyre, jusqu'à porter un bijou qui lui a été offert par Harry, ce qu'on comprend très bien, me paraît très grave et très malsain, comme si c'était une volonté de répéter un destin maudit.
Vous connaissez ce sujet par cœur, Jean Descartes. Quand elle raconte le quotidien de l'institution, c'est-à-dire je rends mes clés, mon passeport, il y a des scènes où elle raconte qu'elle découvrait le fonctionnement.
Attendez.
Pardonnez-moi, je termine ma question. Elle découvrait le fonctionnement. Elle était actrice américaine, elle débarque dans la famille royale. Et elle explique que personne ne l'a aidée, qu'on l'a jugée, qu'on ne l'a pas accompagnée dans ce moment-là. Est-ce que, quel est votre...
Ça me paraît faux. Elle est une comédienne, elle sait qu'il y a des codes dans le métier de comédien. Elle a appris des choses à dire et à faire. Quand on vit dans la famille royale, quand on vit à Buckingham, il y a des codes, ça s'appelle aussi l'éducation, le respect, et il y a des mesures de sécurité. Bon, que Diana déjà voulait faire exploser en plein vol, comme si on entrait dans une institution pour la pulvériser. Je ne pense pas que ce soit le meilleur moyen de se faire respecter. Voyez. Donc, découvrir ça, elle a découvert un univers qui n'était pas des studios de télévision, mais dans les studios de télévision, il y a des horaires, il y a des contraintes, il y en a partout dans la vie, et ce n'est pas elle qui a inventé l'expression « la firme », c'est bien plus ancien
D'accord.
que ça.
Isabelle River, elle dit « j'ai compris que je n'étais pas protégée, mais qu'ils étaient prêts à mentir pour protéger l'institution ». Alors là, on rentre un peu dans le détail de ces déclarations, notamment une histoire de larmes avec Kate, on avait dit qu'elle avait fait pleurer Kate, et finalement elle dit « bah non, c'est elle qui m'avait fait pleurer », et en gros elle donne le sentiment d'être un peu la mal-aimée de la famille, quoi. C'est ça qu'elle raconte aussi, bon. C'est des petites choses,
ça, l'histoire des pleurs avec Kate, c'est quand même l'aspect très 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 anecdotique de cet entretien. En fait, ce qu'on oublie, c'est qu'au moment du mariage, c'est vrai, il y a un enthousiasme, un engouement extraordinaire, une affection pour cette jeune femme qui représente, qui est métisse, divorcée, qui a eu une carrière avant d'entrer dans la famille régnante, et donc il représente à la fois une ouverture sur le monde, une ouverture sur la société, qui est la bienvenue au sein de la famille royale. Mais ce qu'on oublie, c'est que justement, c'est une Américaine, une femme indépendante qui a du tempérament, qui est habituée à avoir une liberté de parole, une liberté d'action, une liberté de mouvement, et qui découvre en entrant dans la famille régnante de Grande-Bretagne, et bien que vivre au sein de cette famille, ça veut dire obéir à toutes sortes de devoirs et toutes sortes de contraintes. Mmh. Il y a un membre de l'entourage de la famille qui a dit il n'y a pas très longtemps qu'on ne fait pas faire demi-tour un sous-marin en l'espace de quelques secondes. Et en fait, c'est ce que Meghan aurait souhaité, c'est-à-dire que l'institution change ses codes, ses usages, qu'elle révolutionne tout un tas de choses uniquement pour elle. Seulement
Vous dites ce sont des petites choses, ce sont des petites choses anecdotiques. C'est de cela qu'il s'agit en réalité. C'est une histoire de famille qu'elle expose. Alors, ce n'est pas n'importe quelle famille. Naturellement, c'est la famille royale. Je termine. Elle raconte notamment que personne ne lui a dit qu'elle devait faire la révérence, qu'elle pensait que dans le cadre privé, elle ne devait pas faire la révérence face à la reine. Et là, Harry lui dit, si, c'est la reine. Sous-entendu, quel que soit ton statut, tu resteras toujours face à la reine. On sent bien, pardon de le dire comme ça, c'est un peu une gabine qui débarque à Buckingham.
Oui, alors il y a une petite ambiguïté dans son discours parce qu'il y a des photos d'elle adolescente devant le palais de Buckingham. On sent quand même qu'il y a déjà à cette époque un début, un brin d'intérêt en fait pour la monarchie britannique. Donc elle explique qu'il a fallu qu'elle googlise, comme elle dit, c'est-à-dire qu'elle recherche sur Internet ce qu'il fallait qu'elle fasse, quels étaient les usages à respecter. Elle explique qu'on lui apprend. Le premier jour où elle doit rencontrer la reine Elisabeth II, la duchesse d'York, Fergie sort en courant de Royal Lodge, lui dit « ça y est, t'es prête ». Elle lui fait une démonstration de révérence. Meghan essaie d'apprendre toute une gestuelle en l'espace de quelques secondes. Voilà. On a l'impression qu'on la précipite dans une espèce de chaudron, si vous voulez, et qu'elle n'a le temps de se préparer à rien. Bon, peut-être, en tout cas, certainement l'a-t-elle vécu comme ça, mais je voulais revenir sur une expression que vous avez employée, Caroline, qui est l'expression « histoire de famille ». Il est vrai, c'est vrai que c'est une histoire de famille. Et pour moi, en fait, ce documentaire, cet entretien, est la traduction d'une famille, enfin, d'une histoire de l'histoire d'une famille en crise, bien plus que celle d'une institution en crise. Simplement, il y a des effets pervers, en fait, à la crise de cette famille. Lorsque le prince Harry attaque son père, le prince Charles, qui est l'héritier du trône, qui a déjà une image très dégradée, lorsqu'il dit « je me sens abandonné », il m'a abandonné, il ne nous est pas venu en aide, il n'a pas pris mes appels au téléphone. Eh bien, ça, c'est aussi abîmer encore davantage l'image de l'héritier du trône, et c'est à terme menacé, en fait, par ricochet, l'institution monarchique elle-même.
Ça fragilise plus, vous êtes d'accord avec ça, Sonia Delsal-Stolper, ce que le prince Harry dit de son frère également en disant « il est prisonnier du système tout comme mon père ». On a le sentiment qu'il les met aussi un peu à distance.
C'est un petit peu par la force des choses. C'est marrant parce qu'on se pose la question pourquoi, Harry met en danger la monarchie en la critiquant de cette manière. Personne ne pose la question dans l'autre sens. Pourquoi est-ce que l'héritier du trône n'a pas pris son téléphone et dit à son fils « Évidemment, je vais t'aider. Ta femme est américaine, elle est actrice, elle n'a pas les bons codes. On va faire en sorte que tu te sentes mieux. » Parce que ce qui est quand même assez caractéristique quand même dans la famille royale, alors oui, elle a un côté moderne. Maintenant, elle admet les roturiers peuvent rentrer dans la famille royale, mais à condition de ne pas dépasser, à condition de rester dans le moule et d'observer tous les codes et d'arrêter de parler. Je vous donne un exemple très concret. Catherine Middleton, donc l'épouse du prince William, a été rédactrice en chef d'un numéro de Vogue. Elle adore la photographie, donc qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a choisi des photographes, elle a posé elle-même en une de Vogue et tout le monde s'est extasié, ça a été un numéro formidable. En 2018, Meghan fait la même chose, se retrouve rédactrice en chef de Vogue, elle choisit de ne pas poser dans ce magazine et de mettre en vedette plusieurs femmes qu'elle appelle des femmes génératrices de changement. Donc il y a Greta Thunberg, il y a Jacinda Ardern, la première ministre de Nouvelle-Zélande. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Elle fait des interviews aussi dedans, elle parle, elle écrit un éditorial. Et qu'est-ce qui se passe ? La presse populaire la critique parce qu'elle n'a pas mis dans les femmes de changement la reine, qui a 94 ans et qui est en fin de règne. Et on estime que c'est un crime de lèse-majesté. Et tout est comme ça. Donc en fait, c'est une famille moderne à condition qu'une fois qu'on ait mis le pied dedans, on ne dise plus rien. Et pourquoi, finalement ? Pour quelle raison faut-il ça ? Alors, le danger pour la monarchie, oui, il est là. Moi, je pense que c'est l'institution qui est en danger. Pour une raison très simple, la reine règne depuis 69 ans. Elle a 94 ans. Donc, son règne viendra à son terme dans quelques années, pas dans des générations. Et ensuite, effectivement, arrivera un roi, Charles, qui sera déjà très âgé et qui n'a pas la popularité qu'a la reine, qui n'est pas incontestable comme est la reine.
On va parler de la suite, de la succession, on n'en est pas encore là, mais vous vouliez dire un mot en réaction à ce qui vient d'être dit, Jean-Pierre ?
Oui, parce que s'il y a quelqu'un de moderne dans la famille, c'est Élisabeth II. N'oublions pas que le 2 juin 1953, elle impose que le sacre et le couronnement soient télévisés contre l'avis de Churchill. Et elle devient ce jour-là une reine de l'image. Et d'une certaine façon, elle l'est restée. N'oubliez pas non plus le Swinging London des années 60. Elle va décorer les quatre garçons venus de Liverpool, les Beatles qui vont lui dédier une chanson. Et n'oubliez pas, par exemple, en matière de rôle, qu'elle a joué son propre rôle dans ce film d'une minute 37 face à James Bond, qui est quand même une leçon d'humour, de courage et de distance que je ne retrouve pas chez la dite Meghan.
Mais du coup, par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est intéressant de dire on est moderne, si c'est la reine qui le décide. Mais Meghan n'a pas pu arriver avec ce qu'elle est. Elle a dû se plier
moderne, c'est
aux
pas
codes qui sont les codes de la famille royale.
Mais quand Meghan arrivait dans un studio, elle avait un rôle à apprendre, elle avait à se tenir là. Il y a de la lumière à tel endroit, il y a des codes partout dans la vie. Mm-hmm. Et il y en a à Buckingham Palace. J'ai été reçu à Buckingham Palace, il y a des codes, on n'y fait pas non plus n'importe quoi.
Mm. Vous voulez dire un mot à Elisabeth Moutet ?
Il y a, en réalité, c'est évident qu'on n'arrive pas dans une institution qui a non seulement un rôle monarchique, religieux, puisque la reine est l'équivalent du pape pour les anglicans, et politique, et en essayant de faire n'importe quoi. Et quand elle dit qu'elle a perdu sa voix, et alors elle s'est comparée dans cette interview, c'était assez surprenant, à la petite sirène du film de Disney, en disant Ariel va sur terre pour perdre sa nageoire de sirène, mais elle perd aussi sa voix. Et finalement, elle la retrouve à la fin. Alors bon, c'est très charmant et très américain de se comparer à une princesse Disney, mais malgré tout, quand elle prononce quelque chose, quand elle refuse d'aller rencontrer le président Trump, quels que soient ses sentiments, pour où il y a une visite d'État, elle sort de son rôle d'une manière ennuyeuse, surtout avec quelqu'un comme Trump qui prenait les trucs au premier degré, parce qu'elle elle prend des décisions politiques qui ne sont pas nécessairement les décisions pour lesquelles les Britanniques ont élu un gouvernement, un parlement, au-dessus duquel la reine ne peut que donner des avis et les membres de la famille royale n'ont
donc
absolument rien à dire.
Donc elle ne peut que se taire, en fait, c'est ça, c'est ce que disait Sonia del Salsol-Place. Donc en fait, il faudrait qu'elle fasse ce que fait la duchesse de Cambridge. C'est ça.
Et alors, quand elle arrive et que la première chose qu'elle dit, c'est « Je suis là pour organiser le changement », il existe depuis 1066, c'est pas une bonne idée.
C'est juste un mot sur cette histoire de mariage trois jours avant la cérémonie. Ils ont pu se marier trois
jours. C'est faux. Ah, alors, ça a été nié par l'archidiacre de l'église anglicane. C'est-à-dire qu'il y a eu une répétition dans un jardin. Il y avait l'archevêque de Canterbury, Justin Welby. Il y avait Meghan et Harry. Il n'y avait pas les témoins qui sont nécessaires. Et par ailleurs, on ne peut se marier que dans un endroit qui est consacré spécifiquement, même si c'est pour un moment seulement. Et ça ne l'était pas non plus. Donc, qui se soit dit l'un à l'autre, et c'est charmant... Voilà, ça, ce sont nos vœux en privé. Ça, c'est délicieux, mais ce n'est pas un mariage. Mais l'idée qu'ils puissent dire « on ne l'a pas donné au public, notre mariage », la vérité, c'est ce qui s'est passé avant, et la et ce que vous avez vu, c'était pour rire, c'est quelque chose qui, quelque part, est un tout petit peu choquant. Moi, ce n'est pas le truc qui choque le plus dans cette interview, et ce n'est pas ça qu'on va retenir de ça, mais j'étais assez étonnée que ce soit pris comme ça. Il y avait tout de même 2 milliards de gens qui regardaient ça, il y avait 800 personnes dans la chapelle de Saint-Georges à Windsor. C'était pas rien, il y avait ce prêcheur baptiste, il y avait la mère de Meghan qui était là, Madame Ragland, qui était d'une grande dignité, très élégante, et donc il y avait cette acceptation de quelque chose d'une symbolique moderne et diverse, et puis elle dit ben non, ça comptait pas vraiment, puisque j'ai eu mon truc privé dans le jardin, avec l'archevêque pour moi toute seule et mon mari.
Alors on le disait, jusqu'à présent pas de réaction officielle, en tout cas jusqu'à maintenant, de la part de Buckingham. Après 75 ans de règne à la veille de ses 95 ans, Elisabeth II a le calme des vieilles troupes. Sa devise « Never complain, never explain ». Hier, lors d'une apparition publique, elle a quand même évoqué le dévouement, je cite, « désintéressé et le sens du devoir », un message peut-être à peine voilé aux deux jeunes Californiens, Juliette Perrault et Nicolas Baudry-Dasson.
C'est une petite phrase qui n'est pas passée inaperçue. Quelques mots prononcés hier par Elisabeth II dans un clip vidéo diffusé à l'occasion de la journée du Commonwealth.
Des exemples émouvants de courage, de détermination, de dévouement désintéressé et de sens du devoir ont été constatés aux quatre coins du Commonwealth.
Dévouement désintéressé et sens du devoir. Deux expressions très remarquées quelques heures avant l'interview du prince Harry et de son épouse Meghan Markle à la télévision américaine. Un coup dur pour la souveraine, qui s'ajoute à l'hospitalisation depuis 3 semaines de son mari pour un problème cardiaque. Un coup dur aussi pour l'image de la famille royale, déjà écornée par la série The Crown. Une famille claquemurée dans ses traditions, intransigeante avec ceux qui sortiraient du rang.
Un jour, mon garçon, vous serez roi.
Tout ce que je veux, c'est être aimé. C'est tout ce que nous voulons de vous.
Que faut-il que je fasse pour obtenir un peu de gentillesse dans cette famille ?
Une série basée sur des faits réels, peu appréciée des principaux intéressés. Seul le prince Harry s'est exprimé publiquement à ce sujet.
La série donne une idée des pressions que subit un membre de la famille royale et de ce que c'est de faire passer le devoir avant toute chose, y compris la famille et des conséquences qui en découlent. Je suis bien plus à l'aise avec un récit comme The Crown qu'avec les articles mensongers que je lis dans la presse sur ma famille, mon épouse et moi-même.
Une fiction qui rattrape la réalité, notamment pour le prince Charles, héritier de la couronne dépeint comme un homme froid, responsable de l'échec de son mariage avec Diana. Un portrait peu flatteur qui a fait chuter sa cote de popularité au profit de son fils le prince William, désormais favori des Britanniques, pour succéder à la reine. Autre Windsor dans la tourmente, sur un tout autre sujet cette fois, le prince Andrew. Le fils préféré de la reine est accusé d'avoir agressé sexuellement en 2001 une mineure de 17 ans qu'il aurait rencontrée par l'intermédiaire du milliardaire américain Jeffrey Epstein. Interrogé à ce sujet par la BBC fin 2019, il se défend très maladroitement.
Ce jour-là, le 10 mars, j'étais à la maison avec les enfants et j'avais emmené Béatrice dans une chaîne de pizzeria à Woking pour une fête. Vers 4 ou 5 heures de l'après-midi, je dirais.
Comment pouvez-vous vous rappeler d'un événement aussi précis ? Un anniversaire dans une chaîne de pizzeria ?
Parce qu'aller dans une chaîne de pizzeria à Woking, c'est très inhabituel pour moi.
Quelques jours plus tard, il annonce mettre fin à ses activités publiques au nom de la couronne. Autant d'événements qui secouent la monarchie, mais qui n'ont pas raison de la reine, imperturbable face aux tempêtes. Avec 83% d'opinion favorable, Elisabeth II, 69 ans de règne, reste très populaire. Une présence rassurante pour des millions de Britanniques, une figure maternelle dont les prises de parole extrêmement rares sont très suivies. Comme en avril 2020, lorsqu'elle s'exprime sur la pandémie de coronavirus.
Ensemble, nous luttons contre cette maladie. Et je tiens à vous assurer que si nous restons unis et déterminés, nous la surmonterons.
Un message d'unité pour l'avenir du pays. Quant à l'avenir de la monarchie, beaucoup le verraient bien reposer sur un couple phare, William et Kate. Selon certains sondages, la duchesse de Cambridge se classerait même à la deuxième place des membres les plus populaires de la famille royale, derrière la reine, bien sûr.
Alors, nous allons redire un mot de la duchesse de Cambridge. C'était bien 69 ans de règne hein, pour la reine Elisabeth qui va fêter ses 95 ans. Juste un mot, Anne-Elisabeth Moutet, vous savez lire entre les lignes hein, depuis le temps. Quand la reine s'exprime et qu'elle parle de dévouement désintéressé et de sens du devoir le jour de la diffusion d'une interview comme celle-ci, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire qu'elle est vraiment extrêmement mécontente.
Ah oui.
Il se trouve que depuis un certain temps, puisqu'il y avait une période d'essai du Mexit pendant un an, où le prince Harry gardait un certain nombre de ses responsabilités, puis l'idée c'était vous allez voir dans un an si vous voulez revenir. Et elle avait dit, sa famille est toujours la bienvenue, revenir genre en Angleterre. Alors il est évident que ce n'est pas en train de se passer, mais il y avait des négociations assez âpres qui étaient jusqu'à ces jours-ci, et qui étaient des négociations sur les conditions dans lesquelles Harry et Meghan allaient partir. Lui voulait garder un certain nombre de responsabilités, en particulier militaires, et d'autre part, ils passaient leur temps à avoir des exigences financières. Et à chaque fois qu'il y avait des choses qui étaient concédées dans une discussion de négociation, ça se passe il y a 2-3 semaines, il y avait une autre demande financière supplémentaire. Et à un moment, c'est la reine qui, après beaucoup de temps, elle avait poussé les gens de Buckingham Palace à se débrouiller en se disant « on reverra pas Meghan, mais il faut absolument que Harry puisse revenir ». Et puis il y a un moment, ils se sont dit « c'est absolument plus possible ». Et c'est le moment où il a perdu, ce qui l'a beaucoup choqué, ses grades militaires et une partie de ses jobs, y compris celui du Commonwealth, c'est-à-dire des choses importantes. Et ça, je pense que le contre-coup, et en particulier les références que Harry fait à l'argent en disant « mon père m'a coupé les vivres », on peut rentrer, si ça vous amuse, dans les vivres en question, parce que les vivres en question étaient très, très importantes, puisque Charles a payé de sa cassette personnelle le mariage, qui était un mariage pour 800 personnes dans des conditions extraordinaires, toute la garde-robe de Meghan pendant le temps où elle était fiancée et le temps où elle a été mariée. Et là, on est en train de parler de plus d'un million de livres, puisque c'est des robes de couture, des robes de mariée, des tenues différentes à chaque fois, des bijoux. Elle lui a tout fait payer. Il donnait environ 2 millions de livres à Harry, qui sinon a une solde d'officier en retraite de quelque chose comme, je ne sais pas, 35 000 euros par an, donc ce n'est pas assez. Et tout ceci, ça faisait un certain nombre de choses, plus un train de vie, et en particulier le coût de sa sécurité, qui était évidemment, alors là, pris par l'État, dans la mesure où il faisait des fonctions publiques. Et tout ça était le sujet d'une énorme négociation où la reine a fini par dire « j'en ai marre ».
Encore en ce moment, ça sous-entend qu'après la diffusion de cette interview-là, les choses pourraient être un peu plus compliquées pour le jeune couple.
Financièrement, le jeune couple a signé deux contrats très importants avec Netflix et Spotify. On a parlé d'un contrat de 100 millions de dollars pour Netflix et quelque chose comme 30 millions de dollars.
Mais plus rien n'arrivera de la couronne.
Pas grand-chose. Alors, il a tout de même hérité de sa mère, Diana, qui a dit « puisque mon fils aîné sera roi un jour, mon fils cadet va avoir tout ce que j'ai ». Et donc, il a hérité d'environ 30 millions d'euros. Donc, il n'est pas entièrement à la rue. Ils viennent de s'acheter une maison qui coûte 12 millions d'euros, où il y a un terrain d'atterrissage d'hélicoptère et 14 salles de bain. Donc, ils ne sont pas totalement dans le dèche. Mais ça coûte de l'argent.
Oui. Jean Descartes, est-ce qu'ils ont essayé, la famille royale, de faire interdire, ça arrive dans un contexte très particulier de pandémie avec le prince Philippe qui est hospitalisé. Il y a aussi un moment dans lequel ça intervient.
Oui, non, mais l'opinion britannique jugera que c'est de très mauvais goût. C'est vraiment un moment où il devrait y avoir une solidarité, une dignité. Et vous savez, la tendance vers laquelle semble aller ce couple, et je le regrette pour eux, me rappelle celle du duc et de la duchesse de Windsor, d'une certaine façon, qui ont été pathétiques, qui avaient été quelque chose, lui avait été roi, et qui ne cessait de se plaindre et de réclamer de l'argent et de réfléchir à leur passé qu'ils avaient détruit. Il y a quelque chose, je ne sais pas ce que vous en pensez, Elisabeth, qui est comparable et très inquiétant et pathétique. En plus, ça ne peut que rappeler des souvenirs effrayants, car elle est américaine. Et on a un point commun avec la sulfureuse Wallis Simpson. Donc, ce n'est pas un procès d'intention, mais on ne peut pas ne pas y penser.
Isabelle River, cette question. Quand la reine Elisabeth ne sera plus là, ce sera la foire d'empoigne ?
Alors, la foire d'empoigne, alors ça, je ne sais pas. En tout cas, d'ici là, il est absolument certain que Harry doit tout faire pour panser les plaies qui restent béantes dans ses relations avec son père, améliorer ses relations avec son frère aîné, le prince William, avec lequel les rapports sont quand même chroniquement difficiles depuis maintenant plusieurs mois.
Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils se reprochent mutuellement ? Ils ont été très proches au moment de la mort de leur mère, la princesse Diana.
Je pense que l'histoire du Mexit est d'abord une histoire d'incompréhension entre les générations, entre les frères, entre la reine et son petit-fils. Enfin, on est vraiment dans une escalade d'incompréhension. Parce qu'il reste de l'affection, d'ailleurs tout le monde le dit. Ces derniers jours, on disait même que le duc et la duchesse de Cambridge, le prince William et son épouse, espéraient pouvoir ramener Harry et Meghan dans le giron de la famille régnante. Pour l'instant, c'est vrai que ça semble extraordinairement compromis par l'entretien qui a été diffusé l'année dernière. En tout cas, s'il veut...
Je vous pose une question très directe. Que peut faire la famille royale ? Que peut-il se passer ? Est-ce qu'il va y avoir une réaction de la reine ? Est-ce qu'il peut y avoir des sanctions, j'entends sanctions financières, les priver des derniers titres qu'il leur reste. Peut-elle rester duchesse de Sussex après ce qu'elle vient de dire à Oprah Winfrey? Que peut-il se passer?
A priori, tout est sur la table. Il y a quelque temps, on entendait dire que le palais de Buckingham envisageait de doter leur titre de duc et duchesse de Sussex à Harry et Meghan. On ne sait pas encore quelle sera la réaction du palais. Ce dont on est certain, c'est que le palais ne va pas s'abaisser, entre guillemets, à répondre point par point à toutes les accusations, à toutes les insinuations qui ont été lancées par le duc et la duchesse de Sussex cette nuit. En revanche, il y aura certainement un communiqué sur les points les plus importants, notamment les insinuations de racisme, qui sont celles qui sont susceptibles à terme de nuire le plus à l'institution monarchique.
Sonia Del Salle-Stopler, c'est accusation contre accusation, c'est un peu règlement de compte, parce que du côté de Buckingham, il y a eu des accusations de harcèlement à l'encontre de Meghan.
Mais c'est ça qui est un peu extraordinaire, c'est que là, on parle tous d'une famille qu'aucun d'entre nous ne fréquente de près, et donc on ne sait pas exactement ce qui se passe. Et c'est un petit peu comme souvent dans beaucoup de familles, en fait, quand il y a les belles-sœurs qui ne s'entendent pas, ou les beaux-frères qui ne s'entendent pas, ou l'oncle qui est vraiment grincheux et qui fait des blagues salaces à la fin des dîners. Simplement, tout ça se passe en public, et évidemment, il y a un enjeu derrière qui est celui de la monarchie. Donc effectivement, c'est parole contre parole. Curieusement, Buckingham Palace, et clairement, c'était un signal assez intéressant de panique quand ils ont annoncé ouvrir une enquête interne sur ces accusations de harcèlement. Curieusement aussi, Buckingham Palace n'a pas ouvert d'enquête interne sur les accusations autour du prince Andrew et de ses relations avec Jeffrey Epstein. C'est quand même un petit peu parfois deux poids, deux mesures, et c'est curieux que ça s'adresse aux femmes et un petit peu moins aux membres masculins de cette famille.
Juste pour un mot pour ce qui lui est reproché, oui. Parce que les gens qui nous regardent ne sont peut-être pas forcément au courant, on lui reproche d'avoir harcelé en gros les personnes qui travaillaient avec elle.
Oui, absolument. Mais alors, c'est une enquête interne, mais effectivement, c'est parole contre parole. Donc, s'il n'y a pas de dépôt de plainte officielle devant la justice ou quoi que ce soit, ça reste interne à Buckingham Palace. Et quant à la réaction de la famille royale qu'on attend toujours, moi, je pense que la famille royale n'en est pas à son premier scandale et elle a intérêt à ne surtout pas mettre d'huile sur le feu. Donc, je pencherais plutôt pour un communiqué relativement rapide, mais clairement, il faut un petit peu de temps pour trouver les bons mots, pour réitérer à quel point ils sont bienvenus dans la famille et qu'il y a eu une grande incompréhension, parce que personne n'a intérêt à ce que tout cela se termine en explosion nucléaire.
Vous êtes d'accord avec ça, Jean-Écart, ça va se passer comme ça, c'est-à-dire avec modération, pondération, calme?
Je l'ignore, mais il y a une chose qu'il faut rappeler. C'est que le couple a perdu son statut d'altesse royale. Altesse royale, ça veut dire qu'il représente la couronne, donc l'État britannique. Il ne représente plus l'État britannique. Ils représentent eux-mêmes dans leurs affaires, dans leur situation. Le fait que Harry ne puisse plus porter les uniformes qu'il avait le droit de porter et qu'il ne pourra porter ses décorations que sur des costumes civils est aussi une rétrogradation par rapport à tout ce qu'il a dit ou tout ce qu'on suppose qu'il a dit, tout son comportement. Si vous voulez, c'est très fâcheux parce que ce garçon, il faudrait peut-être qu'il apprenne ce que dit Etheri, ben être adulte, bien sûr, il a été fragile, bien sûr, il a fait des bêtises, bien sûr, il y a eu le drame de la mort de Diana, mais maintenant, tout de même, or, il a été courageux en Afghanistan, il a même été une cible. Donc il y a une espèce de paradoxe et je ne suis pas sûr que le comportement actuel de son épouse et l'environnement mercantile financier autour soit la meilleure solution.
Au-delà du Mexit, le Brexit continue de secouer le Royaume. L'Écosse rêve d'un référendum et d'indépendance pour reprendre le chemin de l'Union européenne. Quant à l'Irlande, de nouvelles tensions voient le jour autour de cette frontière qui a cristallisé, on le sait bien, on en a souvent parlé ici, toutes les difficultés des dernières négociations entre la Grande-Bretagne et Bruxelles. Mathieu Lignot et Benoît Thébault.
Terminer les contrôles de marchandises agroalimentaires en provenance de Grande-Bretagne et à destination d'Irlande du Nord. Jusqu'au 1er octobre prochain, c'est la règle édictée par Boris Johnson. Une entorse aux accords du Brexit, même si le Premier ministre minimise.
Nous prenons des mesures temporaires et techniques pour nous assurer qu'il n'y ait pas de frontières maritimes en mer d'Irlande. et que tout soit fluide entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord.
Des lourdeurs administratives ont entraîné des pénuries. Mais les problèmes sont aussi politiques. Depuis quelques semaines, ces tags, qui dénoncent le retour d'une frontière invisible, sont apparus sur les murs d'Irlande du Nord. L'œuvre des unionistes, ces Irlandais du Nord attachés au Royaume-Uni. Des groupes paramilitaires ont même annoncé qu'ils se retiraient des accords de paix de 1998. De quoi raviver le traumatisme de 30 ans de guerre civile. À l'époque, les attentats et les attaques font près de 3500 morts. Boris Johnson, obligé de lâcher du lest, quitte à prendre par surprise l'Union européenne et ne pas respecter le protocole du Brexit, et ça, la Commission n'apprécie pas.
C'est la deuxième fois que le gouvernement britannique est amené à enfreindre le droit international. Cela constitue une rupture claire par rapport à l'approche constructive qui prévalait jusqu'à présent, sapant ainsi la confiance mutuelle.
L'Union européenne menace de saisir la justice contre la Grande-Bretagne. De son côté, la vice-première ministre nord-irlandaise du Sinn Féin est favorable à une réunification des deux Irlandes. Elle joue sa partition contre le pouvoir central de Londres.
Je pense que ce que le gouvernement britannique a fait aujourd'hui au cours des derniers jours est une autre course en solo qui démontre une extrême mauvaise foi et conduit à encore plus d'incertitude pour nous ici en termes d'implication et de mise en œuvre du Brexit.
Le Brexit exacerbe les velléités d'indépendance territoriale. L'Union Jack porte de moins en moins bien son nom. En Écosse, le gouvernement a choisi de continuer de hisser le drapeau européen. L'étendard britannique, lui, ne flottera plus qu'une fois par an sur les bâtiments gouvernementaux. Tout un symbole et la confirmation que Nicola Sturgeon, la première ministre indépendantiste, veut marquer sa différence avec Londres.
Une majorité de gens en Écosse veulent l'indépendance. Si notre parti remporte les élections écossaises dans quelques mois, sur la proposition de donner ce choix au peuple, quel démocrate pourrait à juste titre s'y opposer ? Boris Johnson a clairement peur du verdict des urnes.
Nicola Sturgeon souhaite qu'une future Écosse indépendante rejoigne à nouveau l'Union européenne. 62% des Écossais ont voté contre le Brexit. Comme Mike Blackshaw, ce militant est impatient de voter « yes » à une sortie du Royaume-Uni.
Quelle année passionnante cela va être. Nous avons un vaccin, Dieu merci, et nous espérons pouvoir faire campagne et faire du porte-à-porte pendant l'été. Nous pourrons, espérons-le, organiser un référendum en septembre, le gagner, et je pourrai mourir heureux.
Mais depuis peu, les indépendantistes auraient plus de mal à convaincre. En cause, des guerres politiques à l'intérieur du Parti national écossais. Le rapport de force en faveur d'un référendum devrait se jouer en mai prochain, lors des élections locales.
Cette question, Anne-Elisabeth Moutet, est-ce la fin du Royaume-Uni ? Le pays de Galles rejoindra-t-il l'Irlande et l'Écosse dans la contestation ?
Non, parce que il y a un parti indépendantiste, le Pays de Galles, mais c'est pas aussi important. Et ils ont peut-être plus de griefs parce qu'il y a un racisme anti-gallois, pas souvent commenté, mais qui est très réel en Grande-Bretagne, en Angleterre spécifiquement, et les Gallois le leur rendent bien. Mais c'est pas vraiment un problème. Le vrai problème, c'est effectivement l'Écosse d'un côté et l'Irlande. Dans une certaine mesure, Boris Johnson a beaucoup de chance parce que Ursula von der Leyen avait décidé, quand il y a eu les grandes discussions sur la campagne vaccinale et surtout l'approvisionnement en vaccins, brusquement, comme il n'y avait pas assez de vaccins en Europe, ils ont décidé de recréer cette fameuse frontière irlandaise qui ne devait plus exister. Et du coup, ça a amené l'alliance entre le Taoiseach, le président de l'Irlande indépendante, la première ministre d'Irlande du Nord et le gouvernement de Londres. Alors, on n'avait jamais vu ça. Ils ont dit, mais vous nous avez embêtés pendant la moitié des négociations du Brexit en disant, il faut formaliser cette frontière. On a trouvé un système avec le célèbre backstop et les contrôles invisibles. Et brusquement, vous dites que ça compte pas, pas si l'Europe, qui a planté sa campagne d'achat de vaccins, veut empêcher les Britanniques d'en exporter. Donc là, c'est un peu calmé, ça ne veut pas dire que ça va revenir, mais Boris a une accalmie. Et puis l'Écosse, alors l'Écosse, là aussi, vraiment, il est comme les Jared Néron napoléoniens, Boris Johnson, il a de la chance. Il y a un énorme scandale qui est à la fois politique et de harcèlement sexuel contre le précédent Premier ministre d'Écosse, Alex Salmond. Alex Salmond, il a été, toutes sortes de choses sont sorties sur la façon dont il se comportait avec les femmes, mais aussi avec les finances du parti. Sa protégée, c'est la première ministre Nicolas actuelle, Sturgeon. Et elle, on dit qu'elle a tout fait pour essayer de le
qu'elle
cacher.
Qu'elle a menti.
Oui, qu'elle a menti et qu'elle a caché les choses. Or, c'est une femme politique très, très compétente, très bonne, et brusquement, elle se prend un vrai scandale dans la figure. Donc là aussi, la question se pose.
Juste sur le climat, puisque vous êtes à Londres, Sonia Delsal-Stolper, il y a cette affaire, le Mexit, et puis cette interview choc que nous avons décryptée depuis le début de l'émission, et cette campagne de vaccination qui est très bien lancée en Grande-Bretagne. Quel est le climat ? Dans quel climat intervient cette interview ? C'est un pays qui est traumatisé quand même par la crise du Covid et qui aujourd'hui rouvrait ses écoles.
Exactement, c'est le début de la fin du cauchemar, en tout cas on espère, parce qu'effectivement, par rapport à un début de pandémie et de gestion de pandémie catastrophique, le gouvernement s'est rétabli d'une certaine manière avec une campagne de vaccination qui marche très très bien, effectivement, de plus en plus de Britanniques sont vaccinés. Tout ça arrive dans un contexte, il faut se rappeler quand même que le Royaume-Uni, en dépit de cette campagne de vaccination, va enregistrer l'un des pires bilans au monde en termes de décès de la pandémie. On en est à 125 000 morts, c'est énorme. Et il se trouve que cette pandémie est arrivée juste après le Brexit, où effectivement, le pays a été déchiré. Donc c'est une drôle d'atmosphère à l'heure actuelle. Et effectivement, en Écosse, c'est un petit peu entre les deux en ce moment. On en saura plus en mai, quand il y aura effectivement les élections locales, mais c'est évidemment un pays qui ne va pas super bien à l'heure actuelle, et la campagne de vaccination a redonné un petit peu de le sourire aux Britanniques, parce qu'ils se disent ça y est, il y a enfin quelque chose qui fonctionne à peu près bien par rapport à ces dernières années.
Est-ce que c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est dans ce climat-là très particulier pour la Grande-Bretagne qu'intervient cette interview, vous disiez tout à l'heure, Jean Descartes,
c'est
une faute de goût.
Oui, je trouve que c'est très malvenu, une grande faute de goût. Vraiment catastrophique. On ne se serait passé de ça. Il y a assez de problèmes. La reine a son âge. Le prince Philippe. Dans ça, bon, le destin de l'Europe, c'est ses propos médiocres et ses accusations sans preuve. Ça fait désordre et ça fait très médiocre.
Nous revenons maintenant à vos questions. Pourquoi ne pas simplement quitter la famille royale sans la critiquer ? Isabelle River, que cherche-t-il au fond ?
Il y a quelque chose, Harry est profondément le fils de sa mère. D'abord, le fait qu'il ait accepté cette interview, cette espèce de déballage à cœur ouvert devant des millions de téléspectateurs, comme sa mère l'avait fait en 1995, bien qu'elle l'ait après amèrement regretté. Voilà, tout ça montre qu'il y a une fibre chez lui qui est profondément celle de Diana. Et puis, il y a aussi quelque chose qui ressemble aux dernières années de Diana. Alors, je ne suis pas en train de faire des parallèles malsains, je dis simplement que les derniers temps, Diana avait eu une forme de, après son divorce avec le prince Charles, il y avait eu une forme de libération chaotique qui s'était installée chez elle. D'un seul coup, elle se libère de ses gardes du corps, elle vend ses robes du soir, elle veut partir s'installer aux États-Unis. Et il y a quelque chose chez son fils qui vient imiter en fait ce processus de libération un peu désordonnée. D'ailleurs, dans leurs propos, à l'un comme à l'autre, il y a des choses un peu irrationnelles, des choses qui sont un peu en contradiction avec ce qu'ils avaient fait ou dit précédemment. Voilà, on sent bien que c'est un couple sur le chemin de la rupture. Pour moi, l'histoire de la
rupture
Meghan,
entre eux
quand même... non, de la rupture avec la famille régnante, voilà. Avec
ils
tout
ont
ce
annoncé un heureux événement. Hein, on n'en a pas parlé, mais
oui,
ils ont...
voilà. Bien sûr. Mais pour Harry, c'est une rupture qui est extrême, qui est profonde.
À une différence près, peut-être, Isabelle Rivera, à une différence près, c'est que lui dit qu'il veut protéger son épouse de tout ce qu'a subi sa mère, qui n'a pas été protégée à l'époque. C'est la différence qu'on peut voir entre les deux parcours.
Alors, c'est assez différent, parce que s'il y a eu une leçon que la reine et la famille royale ont tirée de l'échec Diana, c'était qu'on ne pouvait pas s'attendre qu'une jeune fille aussi aristocratique soit-elle, aussi en principe connaissant le moule et les codes qu'elle apparaissait, ce n'était pas possible et que par conséquent, il fallait soutenir les jeunes femmes qui rentraient dans la famille royale. Et il y a un exemple où ça a superbement bien marché, c'est évidemment Kate Middleton qui épouse William, qui est une jeune fille de la bonne bourgeoisie, mais qui n'est pas du tout une princesse, ni une duchesse, ni une comtesse, etc. Et qui... supporte, alors elle, quand on dit, quand Meghan dit on ne m'a pas protégée, les insultes que Kate a eues pendant des années de la part de la presse, de la part des copains de William, ce qui est nettement pire, sa mère avait été hôtesse.
Qui disait que c'était une petite intrigante.
Qui disait que, on l'appelait Waity Katie, c'est-à-dire la Kate qui est prête à attendre, à tout faire pour avoir son prince. Quand elle rentrait dans une pièce où il y avait les copains d'Eton, ce collège très huppé où était William, il disait à mi-voix, mais elle l'entendait bien, personnel naviguant aux portes, parce que sa mère avait été hôtesse de l'air. Enfin, elle n'a jamais rien dit. Quand il l'a plaquée en 2007, pendant quelques mois, elle est sortie. Pourquoi il voit bien qu'elle s'amuse tout de même. Elle ne s'est jamais plainte de ce qu'on a écrit sur elle. Et progressivement, la presse qui vraiment l'avait maltraitée.
Elle a réussi à se faire aimer.
Elle s'est fait aimer.
Allez, on avance. Il y a beaucoup de questions ce soir, s'il vous plaît. Comment va le prince Philippe, hospitalisé depuis plusieurs jours? Est-ce qu'on a des nouvelles? Est-ce qu'on a un bulletin de santé?
Écoutez, il est au troisième hôpital, d'après ce que je sais. On a parlé d'abord d'une infection. Il a eu une intervention cardiaque, c'est tout ce que je sais actuellement. Ce que l'on peut dire, c'est que après les séances de confinement à Windsor, la reine est certainement bouleversée, puisque, je le rappelle, c'est l'homme de sa vie. Elle avait 13 ans quand elle l'a rencontré au Collège Naval Royal de Dartmouth le 13 juillet 1939. C'est une histoire extraordinaire et qu'il a subi, lui, avec beaucoup de classe, un ou deux clashs, si je puis dire, le fait, descendant de l'avion en 1952 du Kenya, puisque George VI est mort, où il devait désormais passer trois pas derrière la reine, et il est devenu, non pas le prince consort tout de suite, mais le mari de la reine.
Ouais. C'est très bien raconté dans The Crown, pour le coup. Il y a des choses qui sont fausses dans The Crown, mais je trouve que ce profil-là est bien raconté. Je parle naturellement sous votre contrôle. Si le but était de régler leur compte avec les tabloïds et l'institution, pourquoi ne l'ont-ils pas fait à la télévision anglaise? C'est vrai ça, Isabelle Rivère?
Ils l'ont fait à la télévision américaine pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'aujourd'hui, ils sont installés aux États-Unis, parce que le faire pour la télévision américaine, c'est marquer la rupture qu'ils souhaitent avec l'ensemble des médias britanniques par qui ils estiment avoir été maltraités. Et puis, il y a aussi les liens que la duchesse de Sussex entretient avec Oprah Winfrey, qui, rappelons-le, avait été invitée au mariage du couple et qui cultive, disons, pour dire les choses gentiment, ses relations avec Harry et Meghan depuis l'entrée semi-officielle de la jeune femme dans la famille régnante.
Donc, si je comprends bien, Meghan n'a pas été informée avant son mariage de ses futures obligations et contraintes. Vous croyez à ça, Sonia Del Salt-Stopler?
Écoutez, j'en sais rien. Franchement, je ne sais pas.
Vous n'y croyez pas?
Je me dis qu'elle devait quand même avoir une vague idée que ça allait être... Que ça allait être un certain cirque, en tout cas avec beaucoup de codes, mais peut-être qu'elle n'avait pas mesuré à quel point, parce qu'effectivement, elle est actrice, mais je pense que pour le coup, le rôle d'un membre de la famille royale est le plus difficile de tous. Donc peut-être qu'elle n'avait pas tous les éléments.
Isabelle Rivère voulait dire un mot, allez-y, rapidement.
Oui, si je peux me permettre, c'est lorsqu'elle est entrée dans la famille régnante, là, on n'en parle pas beaucoup, mais enfin, honnêtement, il y a des gens au palais qui se sont pliés en 4, en 8, en 10, en tout ce que vous voulez, pour qu'elle soit bien accueillie, bien intégrée. Le mot d'ordre, c'était « il faut que Meghan soit heureuse, parce que si Meghan est heureuse, Harry sera heureux ». Et la reine a voulu à ce point, en fait, intégrer cette jeune américaine qui, effectivement, ne connaissait rien au code de la famille régnante, qu'elle a déléguée auprès d'elle, une jeune femme en qui Elisabeth II avait absolument toute confiance, qui avait été une ancienne responsable de la communication du palais et qui venait à l'époque de quitter son poste de secrétaire particulière adjointe, c'est-à-dire l'une des principales conseillères de la souveraine, une jeune femme moderne, extrêmement bienveillante.
Donc elle a été accompagnée.
Qui était vraiment là pour guider les premiers pas de Meghan et qui l'a très bien fait.
La question de la rémunération me paraît primordiale. Peut-on les croire lorsqu'ils affirment n'avoir rien touché? Non, c'est ce que vous avez expliqué tout à l'heure.
Qu'est-ce que ça veut dire, rien toucher? Il y a eu un certain nombre de choses qui l'ont permis à la fois d'avoir un domicile, d'avoir un train de vie, cette fameuse sécurité qui a toujours été une pierre d'achoppement, parce que une équipe de sécurité qui s'occupe de cerner le périmètre de où ils habitent, ça veut dire trois fois le nombre de gens.
Cette question qui va dans le sens de ce que vous dites, je vous la pose, parce qu'il y en a beaucoup ce soir. Harry et Meghan touchent-ils encore des émoluments pris sur les impôts des citoyens anglais? Ça va dans le même sens.
Sur les impôts des citoyens anglais, non. Et ça, c'est parce que ça a vraiment été des questions tellement graves qu'il y a même eu des questions au Parlement. Et donc, c'est même une question politique.
Quelles sont les relations entre William et Harry?
Mauvaise.
Mauvaise.
Mauvaise, hélas.
Mauvaise, hélas. faut-il prendre au sérieux les accusations de harcèlement moral contre Meghan?
Oui. Et ça, j'ai eu des informations personnelles.
Bon.
Et j'en dirai pas plus pour le moment, mais
ça
va se terminer dans un tribunal.
Allez, cet entretien ne va-t-il pas définitivement rompre tous les liens entre Harry et le reste de sa famille? Yolande dans le Bas-Rhin, ça paraît mal parti. Hein
elle avait déjà coupé tous les liens avec sa famille américaine, sauf sa mère.
Harry et le reste de la famille?
Et il va faire la même chose que sa femme.
Allez, si par malheur, je pose la dernière, ce que personne ne souhaite, Harry et Meghan pourront-ils assister aux obsèques? En gros, si la reine meurt, c'est ça? Pourront-ils assister aux obsèques?
Oui.
Allez, c'est dit. Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h45. On se retrouve demain, 17h50, tout de suite, c'est à vous.